Chapitre 58. Des bruits étranges réveillèrent Raoden. Il demeura étendu un moment, désorienté. Le mariage devait avoir lieu le lendemain après-midi. Raoden avait jugé préférable de dormir dans la chambre de Kalo. Il était donc retourné chez Royal au lieu de rester chez Keen, où sa reine avait pris la chambre d'amis. Il entendit de nouveau des bruits de lutte. Raoden bondit hors de son lit et ouvrit en grand les portes du balcon. Il se mit à scruter les jardins en contrebas, puis Kaé. De la fumée s'élevait dans le ciel noir, des feux avaient pris un peu partout à travers la ville. Il entendit crier, des cris de damnés. Un bruit d'épée résonna dans la nuit. Le prince passa une veste, puis traversa la maison à toute hâte. À l'angle d'un couloir, il tomba sur une escouade d'hommes en armes qui se battaient contre un groupe de... démons. Leurs torses étaient nus. Des flammes brûlaient au fond de leurs yeux. Ils ressemblaient à des hommes, mais leur peau était striée et leur visage déformé, comme si un morceau de métal gravé avait poussé sous l'épiderme. Un des hommes de Raoden passa à l'attaque. Sa lame effleura à peine son adversaire. Aucune entaille, à peine une éraflure. Une douzaine de soldats morts gisaient au sol. Les cinq démons n'avaient pas d'armes. Les soldats survivants avaient tous l'air absolument terrorisés. Et pour cause, leurs armes ne leur servaient à rien. Ils tombaient les uns après les autres. Raoden, horrifié, recula d'un pas. Le chef des démons bondit sur un homme qu'il poussa contre le mur à une vitesse littéralement surhumaine avant de l'empaler sur une épée en mauvais état. Raoden s'arrêta. Il venait de reconnaître ce démon. Si son corps était aussi difforme que celui de ses congénères, son visage, lui, n'avait pas changé. Il s'agissait de Dilaf, le moine Fjordel. Le monstre regarda Raoden, un sourire aux lèvres. Le prince se jeta sur l'épée d'un soldat défunt, mais Dilaf s'élançait déjà dans le couloir, telle une tornade, et donna un coup de poing dans l'estomac de Raoden. Le jeune homme, suffoqué par la douleur, s'effondra au sol. « Emmenez-le !» ordonna la créature.
« Assurez-vous que tout soit livré d'ici ce soir. » Sa reine referma le couvercle de la dernière caisse de provisions. Le mendiant hocha la tête et jeta un regard inquiet vers le mur des Lantris qui se trouvait à quelques pas de là. « N'ayez pas peur, Oid, » reprit la princesse. « Vous avez un nouveau roi à présent. Les choses vont changer en Arelon. » Oid haussa les épaules. Malgré la mort de Telri, le mendiant refusait toujours de rencontrer sa reine durant la journée. Pendant 10 ans, Oid et les siens avaient appris à redouter Yadon et à se tenir loin de ses fermes. Ils n'avaient pas l'habitude d'agir en plein jour, même pour mener des activités tout à fait légales. Sa reine aurait volontiers demandé à quelqu'un d'autre de se charger de ses livraisons, mais Oid et sa bande savaient comment et où acheminer les caisses. De plus, la princesse préférait qu'aucun Arellois ne découvre le contenu de ses boîtes. « Elles sont plus lourdes que les fois précédentes, madame !» fit remarquer Oid avec malice. Cela faisait 10 ans qu'il vivait dans la rue, et son intelligence lui avait sauvé la vie plus d'une fois. « Le contenu de ces boîtes ne vous regarde pas !» répliqua la jeune femme en lui tendant une bourse pleine de pièces. Oid hocha la tête. Une grande capuche lui cachait le visage. Sa reine ne l'avait jamais vu sans, mais elle présumait à sa voix qu'il devait avoir un certain âge. La fraîcheur de la nuit la fit frissonner. Elle eut soudain hâte de regagner la maison de Keen. Le mariage était prévu pour le lendemain, et la jeune femme avait du mal à garder son calme. Malgré les épreuves, les difficultés et les contretemps, il y avait désormais un roi digne de ce nom sur le trône d'Arelon. Après ces longues années passées à attendre, sa reine avait finalement trouvé quelqu'un qu'elle souhaitait épouser autant par amour que par devoir. « Dans ce cas, bonne nuit, madame !» Oid rejoignit la file des mendiants qui grimpaient à pas lents les escaliers du mur d'enceinte des Lantris. Sa reine interpella Haché d'un signe de la tête. « Va les prévenir qu'un chargement arrive. »«
Bien, madame !»
Haché fit une petite révérence et volta ensuite vers les mendiants. La princesse serra son châle autour de ses épaules. Elle monta dans sa voiture et ordonna au cocher de la ramener chez son oncle. Elle espérait que Galadon et Karata comprendraient pourquoi elle leur faisait livrer des chargements entiers d'épées et d'arcs. L'inquiétude dont Raoden lui avait fait part un peu plus tôt dans la journée l'avait énormément troublée. Elle se faisait du souci pour la nouvelle Elantris, pour son peuple intelligent et chaleureux. En conséquence de quoi, Elle avait décidé d'agir. La voiture circulait dans les rues silencieuses. Sa reine se morfondait. Les armes ne serviraient certainement pas à grand-chose. Les habitants d'Elantris ne savaient pas se battre. Mais elle faisait ce qu'elle pouvait pour les aider. La voiture s'arrêta brutalement. La jeune femme fronça les sourcils et s'apprêtait à interpeller le cocher lorsque quelque chose la retint. Maintenant que le fracas des roues avait cessé, elle entendait un bruit, une clameur qui lui fit penser à... des cris. Elle sentit la fumée quelques secondes plus tard. Sa reine entr'ouvrit le rideau de la voiture et sortit la tête par la fenêtre. Elle découvrit alors une vision d'enfer. La voiture se trouvait au milieu d'un carrefour. Si trois rues semblaient calmes, celle juste en face d'elle était la proie des flammes. Des feux s'élevaient des maisons. Les gens sautaient par les fenêtres et venaient s'écraser contre les pavés. Des hommes et des femmes traversaient les rues en hurlant. D'autres se contentaient de rester debout en plein milieu, hébétés. Des guerriers torse nus les traquaient. La chaleur des flammes et la transpiration faisaient luire leur peau. C'était un véritable massacre. Les étranges guerriers assassinaient froidement, fauchant hommes, femmes et enfants d'un même coup d'épée. Sa reine, tétanisée, demeura un moment à contempler la scène avant de crier au cocher de repartir dans l'autre sens. L'homme se ressaisit et cravacha les chevaux pour leur faire faire demi-tour. La jeune femme faillit pousser un cri lorsqu'elle se rendit compte qu'un guerrier fixait sa voiture. La créature se précipita vers eux au moment où le carrosse se mettait en branle. Sa reine tenta d'avertir le cocher, mais trop tard. Après un bond incroyable, l'étrange guerrier atterrit directement sur le dos d'un des chevaux. L'homme torse nu s'accroupit avec agilité sur le flanc de la bête, et pour la première fois, la princesse aperçut les déformations inhumaines de son corps, le feu glacial de ses yeux. Le guerrier sauta sur le toit du véhicule. L'équipage se balança légèrement, puis sa reine entendit le cocher hurler. La jeune femme ouvrit aussitôt la portière avant de sortir précipitamment de la voiture. Elle dévala la rue, perdant ses chaussures dans la course. Juste en haut de la rue, loin des flammes, il y avait la maison de Kiin. Si seulement elle parvenait à... Le corps du cocher vint s'écraser contre un bâtiment près d'elle, avant de glisser par terre. Sa reine cria, trébucha et manqua tomber. Elle aperçut la silhouette noire d'une créature démoniaque en contre-jour. Le monstre sauta du toit de la voiture avant de remonter la rue dans sa direction. Ses mouvements semblaient lents, mais la bête vigilante se déplaçait avec souplesse. Sa reine devinait les ombres contre nature sous sa peau, comme si quelqu'un avait tordu son squelette pour redessiner la forme de ses os. La jeune femme cria de plus belle et prit ses jambes à son cou. Elle grimpa vers le sommet de la colline à toute allure, tentant de rejoindre la demeure de son oncle. Mais elle ne progressait pas assez vite, et ce monstre ne tarderait pas à la rattraper. Elle entendait le bruit de ses pas derrière elle, qui se rapprochait de plus en plus. Elle apercevait déjà de la lumière juste devant elle, quand une main l'attrapa à la hanche. Sa reine se raidit au moment où la créature lui tordit la jambe. La jeune femme s'écrasa par terre de tout son long sur le flanc. Elle se tourna sur le dos, le souffle coupé par la violence du choc. La silhouette difforme se pencha au-dessus d'elle. Elle l'entendit marmonner dans une langue étrangère. Du fjordel. Une forme sombre et massive s'abattit soudain sur le monstre et le renversa en arrière. Deux silhouettes s'affrontaient dans l'obscurité. La créature hurlait, mais le nouveau venu beuglait plus fort encore. Hébété, sa reine se releva péniblement pour observer les combattants dans la pénombre, quand une lumière soudaine lui permit de distinguer les visages des deux combattants. L'identité du guerrier au torse dénudé ne la surprit pas. Celle de l'autre individu bien plus. « Kiin ? » appela-t-elle. Son oncle tenait à deux mains une hache large comme un torse d'homme. Il la planta dans le dos de la créature qui se tortilla sur les pavés à la recherche de son épée. La créature grogna de douleur, même si la lame n'avait pas pénétré bien loin. Kiin la retira avant de lui faire faire une rotation puissante et la planta directement dans le visage du démon. La créature gémit, mais elle ne cessa pas de bouger pour autant. Kiin non plus. Il frappa encore et encore, abattant sa hache sur la tête du monstre sans s'arrêter, vociférant un chant de guerre téwa de sa voix éraillée. Des os craquèrent, puis la créature s'immobilisa. Sa reine se mit à hurler. Quelque chose venait de lui toucher le bras. Agenouillé près d'elle, Lukel leva sa lanterne afin d'éclairer son visage. « Venez vite !» la pressa-t-il avant de lui prendre la main pour l'aider à se relever. Ils parcoururent la distance qui les séparait de la demeure de Kiin d'une seule traite. Son oncle les suivait d'un pas lourd. Ils poussèrent les portes et pénétrèrent en trébuchant dans la cuisine, où un groupe de personnes mortes d'inquiétude attendait leur retour. Daora se précipita sur son mari dès que Lukel eut refermé la porte.
« Lukel, condamne l'entrée !»
ordonna Kiin. Son fils s'exécuta en se servant du levier que sa reine avait pris pour une torche. Une seconde plus tard à peine, ils entendirent un fracas effrayant dans le hall d'entrée, puis de la poussière envahit la pièce par la porte de la cuisine. Sa reine sauta sur une chaise et observa la pièce devenue silencieuse. Elle aperçut Shuden. Il avait réussi à retrouver Torena qui sanglotait doucement dans ses bras. Daorn, Kaizé et Adienne étaient blottis dans un coin avec la femme de Lukel. Raoden, en revanche, ne se trouvait pas parmi eux.
« Qu'est-ce que... D'où viennent ces monstres ?»
demanda la princesse en levant les yeux vers Lukel. Son cousin secoua la tête.
« Je n'en ai aucune idée. Cela ne fait pas très longtemps que nous les avons remarqués, depuis qu'ils nous ont attaqués, en fait. Comme nous avions peur qu'il te soit arrivé quelque chose, nous t'attendions à l'extérieur. Heureusement que Père a repéré ta voiture en bas de la colline. »
Sa reine, encore sous le choc, lui signifia qu'elle l'avait écouté d'un signe de la tête. Kiin tenait sa femme par le bras et regardait l'arme sanguinolente dans son autre main.
« Je jure de ne plus jamais me servir de cette hache de malheur »
murmura-t-il. Daora tapota l'épaule de son mari. En dépit de son état, sa reine reconnut la lame affûtée. Elle était habituellement suspendue au mur de la cuisine, près des autres souvenirs que son oncle avait rapportés de ses voyages. Malgré ses imprécations, il avait manié son arme avec une dextérité incontestable. Il ne s'agissait pas d'une simple hache décorative. En la regardant de plus près, la jeune femme aperçut des encoches et des traits sur la lame. On y avait gravé un Aon en guise de blason. L'Aon Réo, celui qui signifiait « châtiment ».
Pourquoi un marchand aurait-il eu besoin d'apprendre à se servir d'une arme comme celle-là ?
Se demanda sa reine à voix basse. Kiin secoua la tête.
Un marchand n'en aurait pas eu besoin.
Sa reine se rappela alors qu'un homme s'était déjà servi de l'Aon Réo pour combattre. Mais cette histoire tenait plus de la légende que de la réalité.
Il s'appelait Dreok, murmura-t-elle. Le pirate tranche-gorge.
Toujours cette vieille erreur,
fit Kiin d'une voix haletante.
Son vrai nom était Dreok Brise-Gorge.
Il a essayé de voler le trône de mon père,
précisa sa reine, qui regardait Kiin droit dans les yeux.
Non, répondit son oncle en détournant le regard. Dreok n'a fait que réclamer ce qui lui revenait de droit. Il a simplement essayé de reprendre le trône que son plus jeune frère, Eventeo, lui avait volé. Volé sous le nez de Dreok, alors trop occupé à voyager bêtement pour son plaisir.
Dilaf pénétra dans la chapelle. Il arborait un air radieux, absolument satisfait. Un des moines balança le corps de Raoden encore inconscient au pied du mur qui se trouvait en face de son chef.
« Voilà, mon cher Raten, » annonça Dilaf, « comment il faut traiter les hérétiques. »
Consterné, le Gjorn s'éloigna de la fenêtre près de laquelle il se trouvait. « Vous êtes en train de massacrer tous les habitants de cette ville, Dilaf. Pourquoi ? Quelle gloire Jadeth en retirera-t-il ?
Comment osez-vous remettre mes choix en question ? »
hurla Dilaf en lui jetant un regard ardent. La fureur de son zèle éclatait enfin au grand jour. Raten se retourna. Parmi tous les titres de la hiérarchie des Réti, deux seulement conféraient un rang supérieur à celui de Gjorn. Virn et Gradjet, le supérieur d'un monastère. Les Gradjet n'avaient généralement pas beaucoup de pouvoir, ils étaient rarement chargés de missions en lien avec le monde extérieur. Apparemment, les choses avaient dû changer. Raten parcourut du regard le torse dénudé de Dilaf. Il pouvait contempler à présent les motifs distordus habituellement dissimulés sous la robe du moine. Le Gjorn sentit son estomac se retourner lorsqu'il vit les lignes et les courbes semblables à des varices sous la peau de l'homme. C'était de l'os, le Gjorn le savait bien, de l'os dur, incassable. Dilaf n'était pas un simple moine, ni un simple Gradjet. Il appartenait au monastère le plus infâme du Fjorden. Celui de l'ordre de l'os. Les prières et incantations qui servaient à former les moines de Dakor étaient tenues secrètes. Même les Gjorn ne les connaissaient pas. Quelques mois après le début de sa formation, les os d'un garçon se mettaient généralement à grandir et à se tordre pour adopter des dessins étranges, comme ceux que Dilaf avait sous la peau. Chaque motif conférait des capacités spécifiques à la personne qui le portait, une puissance physique et une vitesse accrue, par exemple. Des images horribles vinrent à l'esprit de Raten. Des visions de prêtres psalmodiant au-dessus de lui, le souvenir d'une douleur atroce qui augmentait à mesure que les moines priaient, la sensation de ses os en train de se refaçonner. Il n'avait pu le supporter. L'obscurité, les cris, les supplices. Le jeune Raten avait quitté le monastère au bout de quelques mois pour en intégrer un autre. Mais les cauchemars ne l'avaient jamais quitté. Personne n'oubliait facilement, d'accord. « Alors comme ça, vous êtes Fjordel ?» murmura Raten. « Vous ne vous en êtes jamais douté, n'est-ce pas ?» rétorqua Dilaf en souriant. « Vous auriez dû vous en rendre compte. Il est bien plus facile d'imiter un Arélois qui parle le Fjordel que pour un Arélois de parler parfaitement le saint langage. » Raten baissa la tête. Il savait pertinemment ce qu'il avait à faire. Dilaf était son supérieur. Il ignorait si ce dernier se trouvait en Arélon depuis longtemps. Les moines de Dakor vivaient généralement vieux, mais l'homme, à l'évidence, préparait la destruction de Caë depuis de nombreuses années. « Oh, Raten !» reprit Dilaf sur un ton rieur. « Vous n'avez jamais vraiment compris quelle était votre place, n'est-ce pas ? Virne ne vous a pas envoyé ici pour convertir l'Arélon. » Raten leva des yeux surpris. Il avait en sa possession une lettre de Virne qui stipulait le contraire. « Oui, je connais les ordres écrits que vous avez reçus, Gjorn. Vous devriez relire cette lettre de temps à autre. Virne ne vous a pas demandé de convertir la Rélon. Il vous a envoyé ici pour prévenir son peuple de sa destruction imminente. Vous avez servi de divertissement. » pour que des gens comme Eventeo focalisent leur attention sur vous, tandis que je préparais l'attaque de la cité. Vous avez rempli votre rôle à la perfection. Une distraction? Mais les gens, il n'a jamais été question que nous les épargnions, Raten. Virne a toujours eu comme objectif de détruire l'Arélon. Ce genre de victoire lui permet de renforcer son pouvoir sur d'autres contrées. Malgré tous vos efforts, nous contrôlons mal le Duladel. Le monde a besoin de savoir ce qui arrive à ceux qui renient Jadet. Ces gens ne renient rien, répliqua Raten qui sentait la colère monter en lui. Ils n'ont même jamais entendu parler de Jadet. Comment voulez-vous qu'ils se montrent vertueux si nous ne leur donnons aucune chance de se convertir ? La main de Dilaf jaillit et frappa Raten en plein milieu de la figure. Le Gjorn trébucha en arrière, la joue en feu sous la violence du coup, assénée par une main que des os supplémentaires rendaient plus puissante. « Vous oubliez à qui vous parlez, Gjorn, » dit Dilaf d'un ton cassant. « Ce peuple est impie. Seuls les Arélois et les Théois peuvent devenir des Élantriens. Si nous les éliminons, nous mettrons pour toujours un terme à l'hérésie élantrienne. » Raten parvint à oublier à quel point sa joue lui faisait mal. Malgré le choc, il comprit combien Dilaf était dominé par la haine. « Vous comptez vraiment tous les massacrer ? Vous feriez périr la population d'une nation tout entière ?» Dilaf sourit. « Si c'est le seul moyen de réussir... »